et c'est le journal de Thomas Schoner. Bonjour Thomas.
Bonjour. L'Ocean Viking pour prendre le relais de l'Aquarius. Le navire humanitaire s'apprête à prendre le large. Les ONG veulent persévérer la vie des migrants naufragés avant tout et même si les pays européens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Faut-il des CV anonymes pour les couples qui désirent adopter en Seine-Maritime? Deux associations craignent des discriminations envers les couples homosexuels. La réponse de Bercy à Amazon, pas question d'alléger ou encore moins de supprimer la taxe GAFA. La plateforme veut répercuter cette taxe sur les entreprises françaises. Avant les bouchons sur la route des vacances, des bouchons pour faire réviser sa voiture. Et puis dans le Morbihan, une AG à la plage. Des vacanciers ne veulent pas que leur camping 2 étoiles disparaisse. La mairie veut le remplacer par un 5 étoiles, plus moderne mais plus cher.
Julia de Funès, petite fille de Louis de Funès, sera l'invitée tout à l'heure de 7h50. Un musée entièrement consacré à son grand-père, l'un des acteurs les plus populaires en France, Louis de Funès, vient d'ouvrir ses portes à Saint-Raphaël dans le Var.
France Inter.
Le scénario, c'est le même presque à chaque fois. Deux navires humanitaires sont encore ce matin bloqués en Méditerranée. L'Italie refuse d'accueillir les migrants qui sont à bord. Les pays membres de l'Union européenne tentent toujours de se mettre d'accord pour répartir les réfugiés. Ce bras de fer, les ONG, SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières l'ont tenu du temps de l'Aquarius, bateau qui a perdu son pavillon sous pression italienne. Les deux ONG qui s'apprêtent donc à repartir en mer avec cette fois l'Ocean Viking. Un nouvel armateur, un nouveau pavillon, mais toujours le même engagement. Sophie Beau, la directrice générale de SOS Méditerranée.
On est ému, on est impatient de partir aussi parce que l'attente a été extrêmement longue, les préparatifs compliqués, difficiles. C'était pas du tout gagné parce qu'il y a vraiment des logiques d'État qui sont à l'encontre du sauvetage en mer. On le voit bien et c'est notamment l'attitude de l'Italie depuis 2 ans. Il y a quand même des avancées dans les discussions entre États européens. Il y a en ce moment des personnes qui quittent la Libye. On a entendu parler de beaucoup de naufrages récemment. Donc il va y avoir des sauvetages, c'est sûr, et on va se retrouver directement dans cette situation où il va falloir trouver un port de débarquement. Donc on va tester, si vous voulez, la solidité de ces discussions diplomatiques et on espère que ça va aboutir plus formellement à un accord pour avoir un mécanisme prévisible, coordonné entre les États européens, parce qu'il faut bien comprendre que l'Italie ou Malte ne peuvent pas être les seuls pays en première ligne à supporter la charge de cet afflux de personnes ou rescapées de la mer.
Les reportages à bord de l'Ocean Viking, ce sera dans le journal de 8h et c'est déjà sur franceinter.fr. On l'apprend ce matin, Félix Dorfin va échapper à la peine de mort. Le Français a été condamné en Indonésie pour trafic de drogue. Et bien, un tribunal ramène sa peine à 19 ans de prison.
Des couples homosexuels s'inquiètent de possibles discriminations lors de procédures d'adoption.
Oui, cela se passe en Seine-Maritime et ce n'est pas anodin. Il y a un an, une responsable avait admis que les couples homosexuels n'étaient pas prioritaires. Les deux associations qui ont porté plainte à l'époque écrivent cette fois au président du département, Antoine Sabag.
Sur quelles données personnelles des adoptants se basent les décisions de choisir telle ou telle famille pour leur confier un enfant? C'est la question que se posent les deux associations LGBT par la voix de leur avocate rouennaise, Maître Massardier.
La question, c'est de savoir si des données qui mentionnent directement ou indirectement l'existence de couples de même sexe ou non est nécessaire à l'apparentement des enfants.
L'apparentement, c'est le moment où le conseil de famille choisit dans une liste de couples qui ont déjà reçu un agrément après enquête, lesquels vont effectivement adopter. Les fichiers de données personnelles peuvent alors conduire à des discriminations contre les couples homosexuels. Maître Massardier propose donc de ne plus indiquer d'éléments qui permettrait de déduire l'orientation sexuelle.
C'est un peu la même idée, oui. Ça devrait être un CV anonyme, puisqu'à partir du moment où on a un agrément, il n'y a pas besoin de connaître l'orientation sexuelle ou non, directe ou indirectement, des personnes qui souhaitent avoir un enfant.
Pour vous, le choix doit se faire sur d'autres critères.
C'est ça.
Autre inquiétude des associations, celle de la conformité de ces fichiers de données personnelles avec les nouvelles lois sur la protection des données. Du côté du département, on renvoie une partie des critiques vers la préfecture et on nous explique que les préconisations d'un récent rapport de l'inspection des affaires sociales sont en train d'être mises en œuvre.
Un reportage signé Antoine Sabag. Une opération de nuit pour les agriculteurs de Haute-Garonne qui ont visé deux nouvelles permanences de députés La République En Marche. À Toulouse, celle de Corinne Vignon a été murée avec des parpaings, du fumier a été déversé devant celle de Monique Iborra à Tournefeuille. Les deux députés qui ont voté pour le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. La préfecture de Loire-Atlantique interdit tout rassemblement dans le centre-ville de Nantes pour demain samedi. De nombreux appels circulent sur les réseaux sociaux depuis la découverte du corps de Steve. Le jeune homme tombé dans la Loire le soir de la fête de la musique, des appels où se mêlent parfois des menaces et des insultes envers les forces de l'ordre et le gouvernement.
Après Donald Trump, c'est Amazon qui veut se payer la taxe GAFA.
Une taxe sur le chiffre d'affaires des géants du numérique. Le président américain a émis l'idée de taxer le vin français en retour. La plateforme Amazon dit carrément qu'elle va répercuter cette taxe sur les tarifs. Autrement dit, les entreprises françaises qui veulent vendre leurs produits en ligne devront payer plus cher. Un coup bas, mais une décision, c'est ce que l'on dit au ministère, qui ne change rien, Maxime Debs.
Bruno Le Maire est parti en vacances, mais dans les couloirs de Bercy, on suit l'affaire et on prend note du communiqué d'Amazon qui ne change rien au plan de départ. Le gouvernement n'a pas l'intention de reculer. Amazon, comme les autres entreprises fonctionnant sur le même modèle, doivent payer le juste impôt. Un conseiller du ministère de poser cette question. Comment expliquer qu'une société comme Amazon soit taxée à 9% quand une PME l'est autour de 20%? Le cap reste donc inchangé. En face, Amazon met en garde. Les entreprises, pour garder leur marge, vont sans doute être tentées de vendre leurs produits plus chers et Amazon n'y sera pour rien. Bercy rétorque qu'il ne faudrait tout de même pas inverser les rôles. Aux Français d'ouvrir les yeux. Amazon prélève aux PME déjà 15% sur chaque vente réalisée sur son site. Un proche collaborateur de Bruno Le Maire de conclure, le prix le plus bas, s'il est plébiscité par le consommateur, n'est pas toujours à l'avantage du citoyen à long terme. Encore une fois, Amazon doit payer le juste impôt.
Les explications de Maxime Debs, des taxes également ce matin sur les importations chinoises. Donald Trump, toujours lui, veut instaurer de nouveaux droits de douane, 10% sur des produits qui étaient jusque-là épargnés. Le ministre chinois des Affaires étrangères lui répond, il estime que ce n'est pas une manière constructive, je cite, de résoudre les frictions économiques et commerciales entre les deux pays.
Et en Russie, on répond également à Donald Trump.
Et sur un autre sujet, les États-Unis sortent officiellement aujourd'hui du traité sur les armes nucléaires de courte et moyenne portée, un traité de désarmement. Moscou se dit prêt à tout pour protéger son territoire, j'en Didier Revoin.
Pour le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, toutes les options sont sur la table, y compris celle de déployer des missiles nucléaires de portée courte ou intermédiaire plus près du territoire des États-Unis. Le retrait américain du traité interdisant la production et l'utilisation de telles armes, signé en 1987 par Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan, permet théoriquement aux États-Unis de déployer leurs missiles près des frontières russes, en Pologne ou dans les pays baltes par exemple. Une évolution qui, de l'aveu de Sergei Ryabkov, contraint Moscou à prendre des mesures, mais des mesures qu'il n'a pas souhaité évoquer. Étant donné qu'il ne s'agit à l'heure actuelle que de conjectures, le vice-ministre ne voudrait pas que ces déclarations puissent être interprétées comme une menace par les ennemis potentiels de la Russie. Moscou reste néanmoins déterminé à se défendre en cas de besoin. Il y a quelques mois, Vladimir Poutine avait affirmé qu'en cas d'attaque de missiles, la réponse de la Russie viserait non seulement le site à l'origine de l'attaque, mais aussi les lieux où la décision de lancer l'attaque a été prise. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Comment fera-t-on dans quelques années pour nourrir 10 milliards de personnes sans détruire encore un peu plus la planète? Les experts du GIEC se réunissent à partir d'aujourd'hui à Genève. Leur rapport sur le réchauffement climatique tournera autour de ces questions. Il sera présenté la semaine prochaine.
Allez, c'est un grand classique de l'été. Le premier week-end du mois d'août rime avec bouchon.
Même pour tous ceux qui partent en vacances, Bison Futé nous annonce du orange pour aujourd'hui. Demain, ce sera noir. Rouge pour ceux qui quitteront la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé qui prévoit entre 8 et 10 millions de véhicules par jour sur les autoroutes ce week-end. Se retrouver dans un bouchon, c'est déjà pas très drôle, mais alors se retrouver en rade, c'est encore pire. Et ça aussi, c'est un grand classique. La révision d'avant le départ. Victor Vasseur, vous avez vérifié à Saint-Etienne, les garages auto sont débordés.
Les mécanos ont la tête sous les capots, chacun sa voiture, comme David, ici depuis mi-juin, et encore plus avant chaque samedi de départ en vacances.
C'est la course. Tout le monde, enfin en général, les gens font tout au dernier moment.
Dans ce garage, il y a 4 voitures de vacanciers en révision. Yassen s'occupe de l'une d'entre elles.
Je remplace un embrayage. Les clients sont tombés en panne à la veille de leurs vacances. Il fallait faire l'opération en urgence au plus rapide. Ça dépend des véhicules, on va dire entre 3 et 10 heures selon le véhicule. Mais bon, il faut quand même réparer la voiture dans les règles de l'art. On essaye toujours de faire au mieux, au plus vite, sauf que des fois, faut savoir être patient en mécanique.
Un 5e salarié a dû être recruté pour limiter l'attente des clients. Pour Nicolas, le contrôle avant de partir en vacances, c'est primordial.
Déjà vérifier la pression des pneus, faire les niveaux, vérifier l'éclairage et tout ce qui est essuie-glace pour faire un voyage tranquille. Il n'y a pas beaucoup de véhicules où il n'y a pas grand-chose à faire. C'est quand même assez récurrent au niveau de l'entretien qu'il y a toujours plus ou moins des pneus. Parce que les gens roulent avec des pneus qui ne sont pas forcément en bon état. Du moment où ils ne se font pas arrêter, pour eux, il n'y a rien de dangereux.
Et comptez pour faire réviser votre voiture, en moyenne, et si tout se passe bien, une centaine d'euros.
Et les bons conseils de Victor Vasseur. Avance bien sûr du PC Mobilité dans un instant. Et puis tiens, imaginez, vous arrivez sur votre lieu de vacances et vous découvrez que le camping où vous passez tous vos étés depuis 10 ans, ce camping n'existe plus. À Quiberon, dans le Morbihan, des vacanciers se mobilisent pour sauver le leur de camping 2 étoiles, le Goviro, situé en bord de mer. L'ambiance y est familiale, certains y viennent depuis plusieurs générations. La mairie veut le remplacer, ce camping, par un 5 étoiles. Donc les campeurs ont prévu un sit-in ce matin devant l'hôtel de ville, François Rivaud.
Ils ont ouvert une pétition qui compte 1600 signatures, rencontré le maire de Quiberon, manifesté, on a ferraillé, dit Jean-Yves Malégol. Il campe sur la presqu'île de Quiberon depuis 40 ans. Pour lui, c'est un type de vacances qui est en train de disparaître.
Il y a des gens qui ne peuvent pas se payer autre chose que du camping municipal. Donc il y a quand même une injustice là-dedans, d'un point de vue financier, d'un point de vue social. Il y a des gens qui sont là, entre amis, entre voisins, entre parents, depuis des décennies. Et là, ils le vivent très très mal. Donc on le vit comme une injustice.
Hein. Charlotte, 37 ans, qui vient avec ses parents et ses deux enfants de 5 et 6 ans, donne en quelques mots sa définition du Goviro.
La convivialité, la simplicité, la solidarité aussi.
La mairie de Quiberon, de son côté, précise que des travaux de mise aux normes se montraient à plus d'1,5 million d'euros, trop chers. Bernard Hillier, le maire, ajoute qu'il y a un autre camping 2 étoiles à Quiberon et qu'il ne reviendra pas sur le vote du conseil municipal. Les vacanciers rétorquent qu'ils continueront à se battre.
Les Aoussiens, là, qui vont arriver, vont reprendre le mouvement à leur compte. Et puis, au mois de septembre, qui vivra verra, mais on ne lâche rien.
Le Goviro compte 245 emplacements. Le projet privé prévoit une réduction de 70 places et la construction d'une piscine.
Touche pas à mon camping, le reportage de François Rivaud à Quiberon. Et si vous aussi voulez soutenir le camping du Goviro, la pétition en question dont parlait François Rivaud était sur le site change.org.
Merci beaucoup Thomas Schoener.